France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir à la vétusté des ponts et autres ouvrages d'art en France. Ils sont 30 000 dans l'Hexagone, considérés en mauvais état. Un quart des infrastructures, donc, qui ont été construites souvent sous le patronage du béton et de l'acier triomphant. Sauf qu'aujourd'hui, les câbles rouillent, le béton s'effrite sous les caprices des fleuves et des rivières, dont le débit a même parfois augmenté depuis le changement climatique. Voilà donc des ponts, pour certains interdits au public, jugés trop dangereux. Les réparations se calculent souvent en millions d'euros. Or, les communes, les départements, voire les régions n'ont pas toujours les moyens d'engager de tels frais. Et l'État rechigne à venir en aide pour rénover ces ponts. Alors, va-t-on devoir supprimer des ponts trop dangereux quand l'argent manque pour les rénover? C'est le thème d'une semaine en France. Nous sommes sur le pont jusqu'à 19h.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier témoignage, nous partons à Bonny-sur-Loire et nous sommes en ligne avec l'adjoint au maire en charge des travaux, voiries et bâtiments. Bonsoir Jean-Michel Morin.
Oui, bonsoir.
Alors entre Bonny-sur-Loire et Beaulieu-sur-Loire, il y a un pont suspendu qui enjambe la Loire et ce pont est jugé critique. Pour quelle raison?
Eh bien, comme vous l'avez résumé, les aciers, les câbles en acier ont tendance à être corrosés, hein, rouillent, les bétons s'effritent, mais ce pont est sous haute surveillance du département depuis de nombreuses années. Et le souci du pont en lui-même devrait être réglé par le département dans la mesure où on a estimé entre 25 et 30 millions d'euros pour le remettre en état, hein, c'est-à-dire faut changer les câbles, refaire les bétons. Le gros souci du pont de Bonny-Beaulieu, c'est le fleuve qui passe en dessous, qui s'appelle la Loire. Et la Loire se déplace, hein, et elle est capricieuse, la Loire. Donc elle se déplace, elle a rongé 100 mètres de berge en 20 ans. Et à ce rythme-là, dans 20 ans, la Loire passe à côté du pont.
Ah oui, effectivement.
Donc, le département veut bien faire les travaux, il n'y a pas de problème. Le département, il est d'accord pour dans un délai de... Parce qu'actuellement, le pont, il est juste interdit aux plus de 12 tonnes.
Mais justement, on va parler des solutions avec le département dans un instant. Parlez-nous du danger. Il y a un danger immédiat avec ce pont?
Il est interdit aux moins de 12 tonnes. Plus de 12 tonnes, pardon.
Oui, il est interdit aux camions.
Aux camions de plus de 12 tonnes.
Et donc au matériel agricole aussi, j'imagine, parfois.
Matériel agricole qui vont plus de 12 tonnes, bien sûr. Oui.
Que sont les tiges d'acier oxydé qui apparaissent sous le tablier? C'est quoi ces tiges d'acier?
Ce ne sont pas les tiges sous le tablier, ce sont les câbles qui suspendent le pont, justement, qui sont aériens. Ce sont des gros, gros câbles d'acier. Alors, le pont a été construit dans les années 50, hein, après la guerre, puisqu'il a été bombardé comme bon nombre de ponts pendant la guerre. Il a été refait entièrement, mais les aciers n'étaient pas de très bonne qualité à l'époque. Hein, et ça, bon, il a 75 ans, hein, mais il faut changer toute la câblure d'acier. Bon, ça, c'est faisable, techniquement, c'est faisable. Ça a un coût, 30 millions d'euros environ, hein. Et le département est bien conscient, puisqu'il le surveille de très près depuis de nombreuses années. Tous les ans, il y a une surveillance accrue, hein, pour justement ne pas éviter la catastrophe.
Alors, ce pont entre Bonny-sur-Loire et Beaulieu-sur-Loire, il est donc interdit à la circulation. Il fait 400 mètres de long. Est-ce que les camions et véhicules agricoles respectent toujours les consignes de contournement?
Alors là, vous évoquez un gros problème. Ça se demandait si les chauffeurs de poids lourds connaissent le code de la route. C'est interdit aux plus de 12 tonnes et les 44 tonnes passent allègrement. Alors pour endiguer ce phénomène, le département a construit des portiques. Un portique de chaque côté, sont des portiques en aluminium, ça coûte 80 000 euros. Et depuis, on en est au deuxième jeu de portique qui a été royalement effondré, accroché par les camions, hein, et qui ne respecte rien.
Ce sont des portiques qui prennent des photos.
Ah non, des portiques pour empêcher de passer, que les camions passent dessous.
Ah oui, donc ça bute au-dessus, ça cogne.
Ça bute au-dessus, et comme c'est de l'aluminium, c'est assez fragile, ça embarque tout. Alors là, le département a pris une mesure en accord avec la mairie de Bonny et de Beaulieu. Ils vont mettre des portiques en acier. Donc là, ils vont les rabaisser. Donc de telle manière que le chauffeur du poids lourd, quand il va voir la barre au niveau de son pare-brise, je pense, nous pensons, qui ne voudra plus, mais il faut en arriver là.
Il va réfléchir un peu plus, évidemment.
Je pense.
Alors, on va en venir aux solutions. Quelles sont les solutions préconisées pour remettre ce pont en état ?
Ben, je vous dis, changer toute la câblerie, refaire les bétons d'ancrage. Ça, c'est techniquement possible. Il n'y a pas de souci. Dans un délai de, je pense que c'est prévu en 2028-2030. Mais le problème, c'est que c'est la Loire qui fait des caprices. Et la Loire, c'est le département, le pont, c'est le département. La Loire, c'est l'État. Et la Loire se déplace, malheureusement, puisque l'historique voulait qu'en Loire, voilà, une quarantaine d'années, on extrayait du sable, peut-être à outrance et tout. On a tout arrêté. Donc la Loire sans sable à nouveau. Et elle se déplace. Elle a grignoté 100 mètres de berge en 20 ans. Donc, en gros, 5 mètres par an.
Et en gros, le département ne veut pas financer les réparations des câbles et du tablier tant que les berges de la Loire n'auront pas été nettoyées.
Ça part d'une logique. Si la Loire passe à côté du pont, ils ne vont pas mettre 30 millions d'euros, je les comprends. Il y a de très bons rapports avec le département. Il n'y a pas de souci. Ils sont conscients de faire quelque chose. Sauf que, alors, madame la préfète du Loiret s'est déplacée. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que ça dure. Mais... Ça ne bouge pas.
Et est-ce qu'il y a des études un peu pour voir le prochain cheminement de la Loire ? On peut projeter ça ? On peut envisager ?
Ah oui, on peut le projeter. Oui, on peut le projeter. Dans 20 ans, à Bonny-sur-Loire, nous n'avons plus de terrain de football ni de vestiaire de foot parce qu'elle va passer sur le terrain de football. Elle reprend son ancien lit qu'elle avait des millions d'années, je suppose. Et ensuite, elle va embarquer notre terrain de camping qui est à 300 mètres en aval.
Effectivement,
donc, vous voyez,
la Loire.
Si on ne fait rien, il y a deux problématiques là, le pont et la Loire.
Et si les travaux ne se font pas, est-ce qu'un nouveau pont pourrait être construit à proximité ?
Alors là, oui, c'est toujours possible, mais le coût n'est pas le même.
C'est-à-dire ?
Ah ben, c'est peut-être le double. Moi, j'ai aucune idée. Il faut déjà, faut savoir où le positionner ce pont. C'est pas toujours évident. Le département, je pense pas qu'il soit axé sur ce projet-là.
Eh bien, merci beaucoup de ce témoignage, Jean-Michel Morin. On comprend mieux la situation. Donc, entre...
Il y a deux problématiques à Bonny-Beaulieu. Il y a le pont et le fleuve, la
voilà,
Loire.
Voilà, on a bien compris. Le pont, les câbles et la Loire et le béton qui s'effrite. Merci beaucoup de ce témoignage. Jean-Michel Morin, adjoint au maire donc, de Bonny-sur-Loire. Nous partons maintenant entre Pont-de-Vaux et Fleurville, à la frontière entre l'Ain et la Saône-et-Loire, car parmi les pont qui enjambe la Saône cette fois. Celui de Fleurville a dû être fermé durant 10 semaines. Il est désormais rouvert, mais depuis, dans cette commune, la construction a entamé d'un nouveau pont et sujette à pas mal de débats, des tiraillements et même pas mal d'interrogations. Reportage sur le pont de Fleurville, signé Guy Vanctil.
Voilà Pont-de-Vaux, charmante petite ville au bord de la Saône.
Pont-de-Vaux, la petite ville est encore riche en commerce en raison justement de sa proximité avec la Saône-et-Loire.
Si on est ici, c'est pas pour découvrir son centre-ville avec ses jolies maisons anciennes, mais c'est pour voir son pont un peu trop ancien.
La Saône-et-Loire et l'Ain unis pour une cause commune, la construction d'un nouveau pont entre Fleurville et Pont-de-Vaux.
Bon, donc je m'appelle Bourgeon Michel, natif de Pont-de-Vaux, j'ai 75 ans. On a monté un collectif du pont de Fleurville. Le pont datant de 1880 en acier a une corrosion phénoménale. Les dégâts, on les a vus, c'est impressionnant. Quand on est dessous, notamment les gens qui vont à la pêche, eh bien d'un seul coup, ils entendaient plouf, plouf. Et c'était des morceaux de métal ou des rivets qui tombent avec les vibrations des camions. Ça tient, bon, on se demande comment ça peut tenir. Donc les deux départements avaient décidé de faire un pont neuf. Il y a eu une étude de fait, il y a eu des plans, une somme de débloqués pour le pont. Il y a eu une partie, il y a eu 900 tonnes de cailloux de disposer de part et d'autre. À la suite de cela, une association écologique s'est emparée du dossier, soi-disant pour protéger des chauves-souris, une zone humide où le pont devait être fait. Alors le dossier a été bloqué, le chantier a été arrêté, et depuis 2 ans et demi, le dossier est au tribunal, et on attend une décision pour protéger les lézards, les grenouilles, et ainsi de suite. Mais arrive un moment où il faut savoir si l'écologie passe avant l'être humain ou pas. C'est ça le gros problème. Et de tout cela, qui paye ? Toujours les mêmes.
Les commerçants et les artisans du secteur Pont-de-Vaux se plaignent.
Tous souhaitent la reprise du chantier. Une pétition circule pour réclamer à l'avenir un nouveau pont.
Bonjour, donc je suis Pascal Picat, à la boulangerie Pascal Picat, sur le rond-point de Fleurville.
Vous êtes pile en face du pont ?
Juste en face, oui. Il a été fermé en janvier, le temps de bricoler pour pouvoir laisser passer les véhicules légers.
Et ça a été quoi le bilan pour vous, le boulanger ?
Le bilan, c'est moins 30% de chiffre d'affaires et 35 à 40 000 euros de perte nette.
Donc vous êtes un fervent partisan du nouveau pont à la place de l'ancien ?
Mais complètement, oui. Ils disent qu'il y a une espèce de chauve-souris qui risquerait d'être délogée. Je ne suis pas persuadé qu'il y ait des chauves-souris. Et puis la nature est bien faite. Généralement, quand on dérange une chauve-souris, elle va s'installer un petit peu plus loin. Puis surtout, on a 17 salariés. Et la fermeture du pont, ce serait à peu près 4 salariés ou 5 à licencier. Voilà.
On peut aller voir ce pont ?
Ouais, carrément. Allez, on y va. Alors moi, je suis Christophe Boucher, opticien à Pont-de-Vaux. Je suis commerçant engagé aussi depuis longtemps. On est déjà allé plusieurs fois sur ce pont pour des manifestations. Donc là, on a les piles, on voit bien qu'elles sont massives et en pierre.
Et dessus, c'est...
Oui, c'est un tablier, voilà, en trois parties.
Métallique.
Et là, bah, quand on passe en dessous, on voit bien quand même qu'il est bien rouillé. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ah oui.
Ça fait partie des 80 ponts, je crois, en France, qui sont sous surveillance vraiment très très attentive, c'est-à-dire vraiment avec des marqueurs posés, on voit si ça bouge, on a un suivi très très régulier, parce que ça bouge, ouais, il ne faudrait pas que ça se casse la gueule quand même.
Donc là maintenant, c'est circulation alternée, véhicule de moins de 3,5 tonnes, en attendant qu'il y ait un règlement qui se trouve, puisque tout ça est bloqué, le nouveau pont est à l'arrêt pour l'instant.
Voilà, le nouveau pont est à l'arrêt.
Il aurait dû être où d'ailleurs ?
Juste à côté, hein.
C'était vraiment collé au pont actuel d'en faire un autre.
Voilà, ouais.
Et là, ce qu'on voit devant nous, c'est un tas de gravier qui a été posé.
En fait, il y a eu quand même un chantier qui a duré, je dirais, 1 mois et demi au moins, 2 mois. Fondamentalement, pourquoi ça s'est arrêté ? C'est qu'on a cru qu'on pouvait passer en force, qu'on pouvait faire ce qu'on voulait en dépit des lois du respect de l'environnement et de la vie commune. Encore une fois, ça fait
partie... Quand on dit « on », c'est « on », c'est les pouvoirs publics, c'est-à-dire les autorités départementales, quoi.
Ah ben non, c'est « on » parce que quand on en parle au pouvoir public, justement, ils nous disent « vous savez, on est tous responsables ». Donc, je vais dire « on ». On n'a pas bien fait les choses, quoi, vraiment. Ouais. Mais encore une fois, moi, mon sujet, c'est pas de dire « c'est de la faute des écolos ». Parce que si le dossier avait été bien fait, il n'y aurait pas de problème. Nous, le pont, il nous en faut un.
Eh bien, je suis Lucie, commerçante à Pont-de-Vaux depuis une dizaine d'années et impliquée à l'Union commerciale des commerçants de Pont-de-Vaux. Et donc là, à midi, nous sommes avec les collègues pour discuter des différents dossiers que nous avons en cours.
Est-ce que dans l'ordre du jour, il y a le pont aussi ?
Il est toujours dans un coin de notre tête, en tout cas, le pont. Donc les travaux ont été lancés et malheureusement stoppés. Après, c'est entre les mains de la justice. Hein. Vraisemblablement, il y a des problèmes sur le dossier. Nous, tout ce que l'on souhaite, c'est que ce problème se règle vite et bien pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire nous, les humains, et le reste aussi. De toute façon, on est mobilisés et vraiment très vigilants sur la suite qui sera donnée aux choses.
Voilà, et la suite, c'est quoi les perspectives ?
Alors, calendrier, malheureusement, je crois que c'est une affaire de beaucoup de patience maintenant, puisque le dossier actuel est en cours de cassation et qu'est-ce que ça va donner cette histoire ? Aujourd'hui, personne ne le sait.
Voilà donc pour les débats autour de la construction du prochain pont de Fleurville en Saône-et-Loire. Une semaine en France est consacrée donc ce soir à la fragilité des ponts dans l'Hexagone, des risques pour les riverains, pour les usagers, notamment dans l'un des ponts de Beauvais dans l'Oise. Bonsoir Mamadou Li. Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes adjoint au maire de Beauvais. Vous êtes en charge de la vie urbaine notamment. Expliquez-nous pourquoi la ville de Beauvais a dû reloger 5 riverains qui habitaient à proximité d'un petit pont de pierre.
Plutôt 3 familles qui ont été relogées. Donc, à la suite d'une constatation d'un affaissement structurel sur un pont situé au quartier Saint-Gilles-des-Marais.
Et à quoi attribuez-vous cette fragilisation du pont ?
Écoutez, il y a plusieurs quand même paramètres qui peuvent expliquer cette fragilisation-là, c'est-à-dire l'âge de l'ouvrage déjà, qui est supérieur à 60 ans. Nous avons aussi des intempéries importantes avec une variable qui déstabilise forcément les fondations du sol. La circulation aussi est devenue très importante sur ce pont-là, dont le dimensionnement n'est pas vraiment fait pour des véhicules lourds. Or, que c'est un pont qui peut uniquement supporter des véhicules légers.
Et qu'est-ce qui a justifié de prendre un arrêté carrément de mise en péril, hein ?
Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, après constatation de nos services qui ont été mobilisés quand même sur ce problème-là, le maire a décidé qu'on puisse quand même prioriser la sécurité des habitants. Donc c'est un pont, effectivement, il y a beaucoup de passages des Beauvaisiens, mais aussi de certains véhicules. Et donc pour la sécurité des Beauvaisiens, le maire veut que ça soit fermé. Et donc je pense que c'est une bonne mesure, étant donné que l'état du pont explique vraiment une urgence absolue pour la sécurité des gens. Donc on va le fermer jusqu'à ce qu'on puisse avoir un vrai diagnostic de ce pont-là.
Et là encore, je vous pose la question, est-ce que ce pont désormais est fermé à toute circulation ? Est-ce que l'arrêté est bien respecté par les automobilistes, comme par les piétons d'ailleurs ?
Oui, l'arrêté est respecté. De toute façon, à partir du moment où on a demandé aux services techniques de mettre quand même des contraintes d'accès à cet espace-là. C'est une petite espace, hein, donc il y a pas quand même beaucoup de personnes qui passent par là, et donc l'accès est complètement barré par nos services.
Alors, à Beauvais, pourquoi dit-on que c'est un ouvrage particulièrement complexe à rénover ? Qu'est-ce qui est compliqué ?
Ben, c'est très compliqué parce qu'en fait, à Beauvais, nous avons 136 en fait, ponts et passerelles. Et donc, au niveau de ce pont-là, certains ponts sont vraiment identifiés comme étant faisant partie de notre patrimoine culturel. Et donc, vu son positionnement, il se trouve entre la préfecture et les habitations dans une passerelle très réduite. Et donc, ça fait aussi une complicité pour une intervention. Et c'est pour ça qu'il était important quand même que cette décision soit prise et le maire l'a prise.
Et donc, comment se fera la remise en état de ce pont ? Je crois qu'on dit le pont de la rue du Marais Saint-Quentin à Beauvais, c'est bien celui-là.
Hein. C'est ça.
Et comment se fera la remise en état alors ?
Ben pour l'instant, nous n'avons pas la date exacte pour la remise en circulation sur ce pont-là, parce pour la simple raison qu'il va falloir quand même maintenir, on a maintenu quand même un partenariat avec l'entreprise Le Cerf, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les fleurs, avec sa voirie privée. Donc les habitants ou les Beauvaisiens qui souhaitent accéder à cet endroit-là peuvent utiliser éventuellement cette voirie-là. En ce qui concerne le pont, donc pour l'instant, il va falloir qu'on attende le diagnostic complet de ce pont-là et savoir qu'est-ce qu'on peut faire et si vraiment ça nécessite vraiment de refaire tout ou alors de le fermer définitivement.
Voilà, ce sera ma dernière question. Est-ce que vous êtes inquiet désormais pour les autres ponts de la ville de Beauvais ?
Disons que les autres ponts sont quand même un peu très âgés. Donc le maire a pris la décision de demander un diagnostic global sur l'ensemble de nos ponts et nos passerelles qu'on a sur Beauvais. Et donc les services ont commencé à faire ce travail-là. Et nous n'hésiterons pas, le maire n'hésitera pas non plus à fermer un pont ou une passerelle.
D'autres ponts de Beauvais s'il le faut. Très bien. Merci beaucoup, Mamadou Ly, donc adjoint au maire de Beauvais en charge de la vie urbaine. Vous écoutez Une semaine en France, consacrée donc à la vétusté des ponts dans l'Hexagone. Juliette Gou à la réalisation, Corinne Boulou à la rédaction en chef, et merci à Aurore Mansip qui m'aidait à préparer ce 18-20.
Tout est si beau dans la ville ce soir. Lycéens, cheveux trempés, Brighton, Kyoto, sur le même trottoir. Et toi, tu voulais me parler. Vous de ça c'est fini seulement. Je regarde la nuit, je t'écoute en même temps. Gorge serrée. Mais si tu savais, si tu savais seulement, mais si tu voyais tes yeux à cet instant, la beauté. Fantôme verglacé, le néon éteint, fermeture du bar. Mais si tu veux, on peut marcher.
C'est beau comme une chanson de Vincent Delerme.
France Inter, le 18-20.
Nous sommes en ligne à présent avec Bruno Belin, sénateur de la Vienne. Le thème ce soir, la vétusté des ponts en France. Bruno Belin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez été le rapporteur d'une mission d'information sur les ponts et leur sécurité. Voilà 6 ans que vous avez remis vos recommandations. Vous souhaitiez un plan Marshall à l'époque, un plan Marshall pour les ponts, 120 millions d'euros par an dès 2020, qui devait se cumuler à un fonds de 1,3 milliard pour aider les collectivités territoriales. Que sont devenues vos recommandations depuis 2019 ?
Eh bien, malheureusement, j'ai eu beau réitérer un certain nombre de ces demandes, de ces avertissements, de ces alertes et des recommandations les plus simples. Et pour l'instant, il faut bien constater que malheureusement, les collectivités font face à un grand néant, à une incompréhension, à pas de retour et forcément à des inquiétudes. Parce que avant toute question d'argent, il faut savoir que nous avons en France des dizaines, des centaines de milliers d'ouvrages d'art orphelins, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas à qui ils sont, des transferts de propriété, d'anciennes lignes de chemin de fer, comme on disait, qui datent pour certains du 19e siècle, et voilà, des collectivités qui se retrouvent en responsabilité, où parfois, eh bien, on voit des ponts s'effondrer, c'est arrivé l'an passé dans le Gard, avec un transport scolaire, heureusement pas de blessés, mais c'est vrai que cette mission initiée après le drame de Gênes, réitérée 3 ans après en disant est-ce qu'on a avancé, parce qu'on a bien compris que entre les deux il y avait eu la Covid qui avait gelé beaucoup de choses, mais finalement on s'est rendu compte que voilà, le travail qui est d'abord de faire l'identification des propriétés de ces biens, un bilan de santé de tous ces ponts, évidemment. Des fonds indispensables, tout ça n'a pas avancé.
Vous parliez des ponts orphelins, il faut peut-être rappeler que à qui appartiennent les ponts? Quand un pont passe au-dessus d'une départementale, ça appartient au conseil général, enfin pardon, au conseil départemental. Quand c'est une autoroute qui passe sur un pont, ça appartient à l'État et ça se décline comme ça. Et il y a des ponts donc effectivement orphelins. La vétusté des ponts en France, ce serait donc un mal qui est largement sous-estimé selon vous, avec quel risque à moyen terme alors?
Alors, quel risque? D'abord, il faut comprendre que beaucoup de ces ouvrages ont été faits 19e siècle, voire première moitié du 20e siècle, donc faits avec des trafics qui n'ont jamais imaginé les trafics que l'on connaît aujourd'hui et qui n'ont jamais imaginé les tonnages que l'on connaît aujourd'hui. Donc, on a évidemment d'abord aujourd'hui une sous-estimation de ces ouvrages d'art, qui est bien compréhensible, hein, qui n'est la responsabilité de personne. On ne pensait pas, quand on a fait passer des charrettes au milieu du 19e siècle, qu'on ferait passer des 39 tonnes un jour. Mais derrière, ces ouvrages d'art, ce tonnage différent, ce trafic différent, il y a eu aussi des effets climatiques. Ces ponts du 19e siècle ou du 18e siècle sont en pierre, parfois en terre, et donc les effets de réchauffement, de précipitations importantes et tout ça a fragilisé. Donc il faut effectivement les identifier, qui en est propriétaire, et puis derrière un carnet de santé, c'est-à-dire dans quel état sont ces ponts, parce que effectivement entre ce qui a été fait avant la guerre et la réalité d'aujourd'hui, il y a une grande souffrance et de quoi s'inquiéter.
De quoi s'inquiéter de la vétusté des ponts et autres ouvrages d'art. Or, nous en sommes toujours à une sorte de culture de l'urgence dans ce domaine.
Oui, parce que c'est quand il arrive malheureusement quelque chose qu'on se dit, mais au fait, à qui est ce pont? Et voilà, et donc partage de responsabilité, vous l'avez très bien dit, est-ce que la chaussée est une voie départementale ou est-ce que c'est un chemin qui finalement était peut-être un chemin d'association foncière? Des fois on voit des ouvrages qui ont été faits même par des associations de chasse pour passer d'un champ à l'autre. Bien sûr que c'est source d'inquiétude parce que derrière vous pouvez avoir des promeneurs, des enfants en bicyclette ou deux voitures qui se croisent, et derrière c'est une responsabilité. Moi je suis inquiet pour mes collègues élus qui peuvent bien évidemment voir leur responsabilité engagée bien au-delà évidemment des préoccupations de finances publiques. Il y a derrière des vies qui peuvent être en jeu.
Et l'État laisse les collectivités territoriales bien seules face à cet immense défi?
L'État a pourtant les services qui existent. On a les DDT, les directions départementales des territoires, où il y a des gens compétents. Et puis, il y a un organisme national qui s'appelle le CEREMA, qui a la compétence et qui devrait être là en assistance à maîtrise d'ouvrage. Mais derrière tout ça, une fois qu'on a dit ça et qu'on aura fait l'identification des ouvrages d'art et leur bilan de santé, évidemment, la question des travaux nécessitera un engagement financier élevé. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans cette impasse financière. Les départements qui sont propriétaires de 90% des routes en France, les routes départementales, tout le monde les connaît, la situation financière des départements est catastrophique. Il n'y a plus de ressources fiscales. Les DMTO, c'est-à-dire les frais de notaire, qui étaient une ressource avantageuse il y a 5, 6, 7 ans, sont en train de fondre totalement. Et donc, les départements ne peuvent pas engager de ces plans indispensables pour refaire les ouvrages d'art, indispensables aussi à la circulation.
Et donc, si la France en est là, concernant la fragilité croissante de ces infrastructures, c'est la faute à la décentralisation?
Non, parce que la décentralisation était une chance en France, mais c'est surtout au fait que on ne réagit toujours que dans les crises.
La politique de l'urgence.
Ouais, voilà, on voit bien quand on est confronté à des grands incendies de forêt, on va se dire ah oui, c'est dommage, il aurait fallu entretenir. Ah bah oui, il faudrait acheter des appareils, des Canadair, alors que finalement, si on entretenait un peu mieux, on ne serait pas forcément confronté à ces situations sur nos territoires. Vous savez, l'exemple qu'on aura, que toute notre génération aura en tête, reste la Covid, où on a bien vu que au lendemain du confinement, on n'avait pas d'ampoule de curare, pas de masque, pas de gel. C'est l'impréparation. Or, cette impréparation en matière de pont, elle peut évidemment générer des drames.
Et par exemple, est-ce qu'il faudrait remettre au goût du jour les anciennes DDE, les directions départementales de l'équipement qui ont été démantelées, mais qui gardaient toujours un œil à l'époque sur toutes les routes et les infrastructures?
C'est pas si vieux que ça. Il y a moins de 10 ans, on avait encore un service qui s'appelait la TESAT, qui était un service de l'État qui accompagnait les collectivités. Le CEREMA pourrait faire cela. Ça fait partie des préconisations que le Sénat a mis en avant depuis déjà plusieurs années.
Alors, le CEREMA, on va le définir, hein, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un organisme public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique. Dites-nous quel est son apport justement pour détecter la fragilité des ponts.
D'abord, il a évidemment des personnels d'une grande compétence et donc il suffit de les mobiliser. Alors, sont-ils assez nombreux, ça, je suis bien incapable de vous le dire. Je vous rappelle qu'on parle de peut-être 600 à 700 000 ouvrages d'art en France. Donc, ça nécessiterait évidemment un plan et une rigueur.
On sait qu'il y en a 30 000 a priori en mauvais état, 30 000 ponts ou œuvres ouvrages d'art.
Ça, c'est l'urgence. Ça, c'est ceux qu'on a classés en première urgence. Voilà, mais il faut commencer par tout ce qui est finalement orphelin, abandonné, sur lequel vous avez peut-être tout simplement des preneurs, des enfants qui passent en vélo et qui peuvent se retrouver demain matin parce que ce pont n'a pas été entretenu depuis une centaine d'années, et bien dans un précipice ou un fossé. Et voilà, c'est ça, c'est cette sécurité qui est en permanence un enjeu. Et donc, il faut aller à l'identification de ces ouvrages d'art et évidemment en faire le diagnostic.
Et à l'époque, en 2019, au moment où vous avez remis votre rapport, monsieur le sénateur, aviez-vous identifié quelques actions préventives que pourraient mettre en place les communes pour mieux surveiller leurs ponts ?
Alors vous savez, vous avez toujours après le timing qui vient polluer le calendrier municipal. D'abord, il faut comprendre une chose, que la plupart de ces ponts, je vous parlais des anciens ponts de ligne de chemin de fer, on est en milieu rural, avec donc des petites communes, des villages de parfois moins de 1000 habitants, moins de 500 habitants, donc il n'y a pas de service technique. Vous avez le maire, un adjoint à la voirie, et puis une secrétaire de mairie, et voilà, donc ils n'ont pas les moyens de faire. Ce premier avertissement du Sénat 2019 tombait juste avant le renouvellement municipal de 2020, puis il y a eu les 3 ans de Covid qui ont complètement pollué l'action des élus locaux parce qu'ils ont été mobilisés dans plein d'autres choses. On est aujourd'hui en fin de mandat municipal, les élections municipales sont en marche prochain, donc évidemment un certain nombre d'élus sont moins mobilisés. C'est pour ça qu'il faut tout le temps rappeler, on a bien vu encore récemment des accidents ça ou là, il faut alerter, c'est notre rôle.
Et les petites communes, il faudrait peut-être, pour les aider à identifier, une mutualisation au niveau départemental ou intercommunal peut-être ?
Non, c'est une responsabilité de l'État. Moi, je l'affirme, on est dans une question de sécurité publique, et donc c'est une responsabilité de l'État. On ne peut pas faire peser sur les communautés de communes une responsabilité. Vous savez, on voit bien qu'il y a sans cesse un trafic qui est dévié parce que les villes ne veulent plus de poids lourds. Très bien, moi je respecte cette décision, sauf qu'évidemment, ces poids lourds qui font parfois de l'international, de la Pologne à l'Espagne, entre autres, eh bien, passent dans des territoires hors grâce au GPS, hors des chemins les plus simples, et donc derrière, ils se retrouvent
vibrer
sur des territoires ruraux. Voilà.
Les ponts. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci beaucoup, Bruno Belin, donc sénateur de la Vienne et rapporteur d'une mission d'information sur les ponts et leur sécurité. Merci d'écouter France Inter, il est 18h50, la suite d'une semaine en France. À la technique ce soir, Thomas Allard, Florian Dorimini et Ronan Mahé. Voici Bob Marley sur Inter. Run away from yourself. Can't 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 run away from yourself. Must have done.
You must have done
something wrong. Said you must have done.
You must have done.
Whoa, something wrong.
Something wrong.
Why you can't find the place where you belong?
Running away.
Stop, 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 stop,
burden is the heaviest. Just tell me,
who feels it, knows it, Lord? 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 You're running and you're running and you're running away. You can't run away from yourself. Could you run away from yourself? Can you run away from yourself? Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. Can't run away from yourself. You're faster than something, 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 something you don't want nobody to know about. You're Mr. Lord, something wrong. What you must have done, you must have done something wrong. Why you can't find where you belong.
Tout doucement, Running Away, c'était Bob Marley, la programmation musicale de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région à présent, l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Lorraine, ICI Drôme-Ardèche, ICI Gascogne. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Eric.
En Lorraine, Bastien Munch, le maire d'Auzerail, se charge lui-même de nettoyer la station d'épuration de la commune.
Oui, Auzerail, c'est une petite commune de 150 habitants dans ce qu'on appelle le PIO, c'est-à-dire le nord de la Meurthe-et-Moselle. Depuis 12 ans, à Auzerail, il y a une station d'épuration communale qui assainit les eaux usées des habitants. Mais comme c'est parfois le cas, eh ben, cette commune n'est pas rattachée à un syndicat d'assainissement. Ce qui veut dire qu'elle doit s'en occuper toute seule. En l'occurrence, c'est le maire, Victorien Barthélémy, qui gère cette tâche hebdomadaire. Il doit vérifier les armoires électriques, mais surtout les filtres des pompes. Et quand ces filtres sont bouchés par des déchets qui n'ont rien à faire là, souvent des lingettes jetées dans les toilettes, eh bien c'est au maire d'enfiler les gants et de les enlever. Bon alors non seulement c'est pas très ragoûtant, et en plus, au total, ça lui prend quand même une demi-heure, alors que Victorien Barthélémy est un maire jeune, 25 ans, qu'il a un travail à côté, il est prof d'histoire géo. Alors depuis quelques semaines, il réfléchit quand même à adhérer à un syndicat qui prendrait en charge la gestion de cette station d'épuration. Ça pourrait se faire à partir du 1er janvier 2026, sauf qu'il craint deux choses, ce maire. D'abord que les prix de l'assainissement augmentent pour les habitants, il pourrait doubler en cas d'adhésion à un syndicat. Et puis il a peur qu'un tel syndicat, qui gère parfois 30 autres communes, ne soit pas réactif en cas de problème. Et oui, c'est plus simple quand c'est le maire qui s'en occupe, qu'il le fait bénévolement et qu'il habite juste à côté.
Bastien Munch, ici Lorraine. En Ardèche à présent, Pierre-Jean Pluvis, quel est donc ce remède pour les cerises qui sont attaquées par les mouches?
Alors c'est un remède 100% naturel, hein, puisque c'est en fait une micro-guêpe, aucun produit phytosanitaire là-dedans. La cerise est attaquée par une mouche qui s'appelle la Drosophila suzuki, c'est une mouche qui vient du Japon, de Chine, elle est arrivée en 2009 en France, et depuis elle fait des ravages. En fait elle pond ses œufs dans la cerise, et la larve détruit le fruit. Alors avec une météo douce et humide, ben, ça peut détruire la totalité de la récolte, 100%. En ce moment en Ardèche, avec un léger vent du nord, pas trop d'humidité, eh bien les professionnels estiment qu'ils vont perdre en moyenne un tiers de leurs cerises. Alors pourquoi il n'y a pas ce phénomène en Asie? Eh bien parce que là-bas, la Drosophila suzuki, elle a un prédateur, justement cette micro-guêpe dont je parlais au début, sauf qu'elle n'est pas venue en Europe avec. Alors les ingénieurs de l'INRAE, l'Institut de Recherche Agronomique, élèvent cette mini-guêpe pour la relâcher dans les vergers de cerises. C'est ce qui a été fait cette semaine pour un test hein, dans le secteur d'Aubenas, en Sud-Ardèche. Dit comme ça, ça paraît simple, mais ces mini-guêpes sont très difficiles à élever. Et puis ensuite, une fois relâchées, il faut qu'elles s'acclimatent justement pour se reproduire et vivre leur vie sans intervention humaine. Il faudra donc encore quelques années pour savoir si ça marche.
Pierre-Jean Pluvis, en Ardèche, nous partons dans les Landes. Éric Ballanger, les Landes, où il n'y a pas que le rugby, le basket, c'est l'autre sport roi dans les Landes.
Oui, voilà. Les filles de Basketland viennent tout juste de décrocher le Graal, le titre de championne de France. C'était il y a 2 semaines, mais les membres du club et les supporters, bon, c'est-à-dire tout le département, s'en relèvent à peine, car croyez-moi, ils n'ont pas avalé que du solide. Mais voilà, on prépare maintenant le rendez-vous basket des Landes. C'est dans 1 semaine. Les finales garçons et filles de la Coupe des Landes. Ce pourrait être de simples finales départementales, mais non. Ici, ça s'appelle les finales de la Coupe du Monde des Landes. Comprenez bien, 327 communes dans le département, beaucoup, énormément de villages. Évidemment, c'est plus simple de trouver 5 personnes par village plutôt que 15 pour former une équipe de rugby. Alors, ça fait des décennies que ce sport est roi ici dans le département. Et que remporter la Coupe des Landes, c'est s'assurer pendant un an que l'on pourra chambrer tous les autres villages, toutes les autres villes. Pensez donc que Boris Diaw, immense basketteur français, formé ici à Mont-de-Marsan, puis 16 ans en NBA, un titre en 2014 avec San Antonio. Oui, mais voilà, il n'avait jamais gagné la Coupe des Landes. Alors l'an passé, il a réuni quelques copains, une licence à Biscarros et une victoire en finale de la Coupe des Landes à 41 ans. Cet engouement, que dis-je, cette folie. Ce sera donc le samedi 7 juin dans des arènes à Gamarde. Et pour espérer avoir un billet, il a fallu avoir de la chance. On avait tellement de demandes qu'on a tiré au sort ceux qui auraient le droit d'acheter un ticket pour rentrer dans l'arène.
Eh bien, merci à tous les trois. L'actualité d'ici et d'ailleurs avec les radios du réseau ICI Ex-France Bleu, faut-il encore le préciser. À suivre, le journal de 19h de Christelle Rebière et puis le téléphone sonne à 19h20, consacré ce soir à cette interdiction de fumer dès juillet prochain sur les plages, dans les parcs, jardins publics et aussi à proximité des écoles.